Bonsoir à tous, merci d'être venus pour écouter Chantal Thomas et son, pour le dire tout de suite, merveilleux livre « Souvenir de la marée basse » qui se passe en partie à Arcachon, mais nous allons en parler tout de suite. Je voudrais dire juste une petite chose avant de débuter, c'est que bon, on connaît Chantal Thomas pour différents ouvrages, on connaît son Chantal Thomas romancière historique de livres Les adieux à la reine qui a été adapté, Les chants des princesses qui l'est également et qui va paraître très bientôt sur les écrans de cinéma fin décembre je crois. On la connaît également pour de merveilleux essais et elle a également une autre facette de son œuvre qui est un peu une autobiographie déguisée qui a beaucoup à voir avec la mémoire, avec les souvenirs, et c'est dans cette veine qu'elle écrit Souvenir de la marée basse, qui commence sur un plan séquence, comme on dirait, un cinéma absolument extraordinaire, dont nous parlerons tout à l'heure. Et c'est un merveilleux livre. C'est un merveilleux livre parce que je crois qu'il s'agit de ces livres universels qui arrivent à vous parler, que vous soyez un homme, une femme, un enfant ou une petite fille, un petit garçon, une petite fille, que vous soyez un parent ou que vous souveniez de vos souvenirs d'enfance. Et c'est la magie qui sourde de ce livre-là, qui vient certainement d'une écriture extrêmement maîtrisée, un style extraordinaire. Ce qui fait que d'ailleurs, depuis un petit moment, je ne sais pas si Chantal Thomas le sait, elle est dans la liste du prix du style. Voilà, je viens de l'apprendre.
Oui, j'ai appris il y a un quart d'heure.
Voilà, moi aussi. Donc voilà. Alors maintenant, tout le monde est au courant. Alors, on va commencer par ce qui est le plus simple. Chantal Thomas, comment vous est venue l'idée de ce portrait de la mère, qui est grosso modo portrait de ma mère en crawl?
Ça m'est venu d'une manière très indirecte, parce que j'avais lu le livre de Roland Barthes, Journal de deuil, qui est un livre sur sa mère et sur sur qu'est-ce que c'est les jours et les mois qui suivent la mort de sa mère. Et en le lisant, j'ai été vraiment frappée par d'abord par la figure maternelle qu'il évoque, qui est celle d'une femme nourricière, extrêmement protectrice, et elle est celle qui sait arranger l'intérieur, au point que, après sa mort, Roland Barthes étant dévasté de chagrin, il va essayer de maintenir le même ordre dans la cuisine, dans le salon, et même, et c'est ça qui m'a fait un effet étrange, et même de reproduire les plats qu'elle faisait pour lui. Et j'ai trouvé que c'était incroyablement beau, cette idée de classique d'ailleurs, de la mère qui vous nourrit, et plus tard, on essaie de reproduire les mêmes plats alors qu'elle n'est plus là. J'ai trouvé ça que c'était extrêmement beau. Et par contraste, j'ai pensé à ma propre mère. Et je me suis dit que c'était la dernière chose que je pouvais faire. Parce que vraiment, la cuisine, sa dame était d'une humeur vraiment de chien. Et quand elle pouvait s'en échapper, c'était sa joie. Et à partir de cette réaction, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle aimait vraiment? Qu'est-ce qu'elle aimait et qu'est-ce que je pourrais, si je voulais la célébrer, qu'est-ce que je célébrerais en elle? Et j'ai pensé, et c'était une manière de reconnaître qu'elle m'avait transmis quelque chose et qu'au fond, on avait nagé dans la même eau depuis le départ, j'ai pensé nager. En y pensant, tout a pris sens et j'ai compris aussi le second versant de son existence, d'un rivage, l'autre. Voilà.
Et donc, vous commencez, et donc vous êtes revenu non pas à une image que vous avez pu voir, parce qu'il y a des images qui sont magnifiques, les images de l'enfant sur la plage qui regarde sa mère, qui regarde l'horizon, et la mère rentre dans la mer et commence à nager. Mais ce n'est pas du tout par cette image-là que vous commencez. Vous pouvez raconter le tout début, qui est une image de la mère de votre mère.
Oui, il y avait une anecdote sur elle, parce qu'elle n'est pas du tout quelqu'un qui racontait des anecdotes. Donc, c'est une anecdote que racontait sa mère. Elle racontait que Jackie, enfant, ou pas enfant, adolescente, vers 15 ans, elle était extrêmement spontanée et elle avait un rapport impulsif au monde, ce qui fait que moi, je ne l'ai pas, évidemment. Et elle était de Versailles, elle est née près de la porte de la Reine, ce que j'ai découvert très tard. C'est inouï quand même, non ? Je suis obsédée par Trianon, obsédée par l'entrée de la Reine, et je découvre des années plus tard que c'est là où elle est née, rue Sainte-Adélaïde.
Vous ne le saviez pas ?
Non, je ne savais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc, cette anecdote, c'était qu'un jour, il faisait très chaud, elle arrive avec sa bicyclette, elle pose sa bicyclette, elle enlève ses vêtements à toute allure et elle se jette dans le Grand Canal. Bon, ça, c'était un moment où le Grand Canal n'était pas surveillé comme maintenant. Et évidemment, et ce que j'ai inventé, c'est que je l'imagine faisant son crawl comme si de rien n'était, et sous les yeux de tous les fantômes de Versailles réunis qui n'ont jamais vu, surtout les femmes, qui n'ont jamais vu d'abord une femme nager et qui ne comprennent rien à comment on peut se déshabiller si vite. Parce qu'à Versailles, s'habiller et se déshabiller, ça prenait des heures. Et même pour certaines femmes, l'essentiel de leur occupation, c'était qu'on les habille et qu'on les déshabille.
Oui, parce que ce qu'il faut également préciser, que cette anecdote
qui est inaugurale,
se passe à peu près dans les années 30, peut-être un peu avant les années 30. Et c'est donc assez rare, effectivement, de voir à ce moment-là une jeune femme avoir cette liberté, nager. Et nager dans le Grand Canal de Versailles, qui est un crime de lèse-majesté que vous allez interroger vous plus tard dans vos écrits, mais qui est une autre histoire, mais surtout qui manifeste un caractère qu'on va retrouver dans l'ensemble du livre que vous consacrez en même temps à votre mère, en même temps au rapport que vous entretenez à votre mère, en même temps à ce qu'est l'enfance et qu'est-ce que c'est le regard sur la mère, mais qui est une caractéristique que l'on retrouve et qui est une sorte de rébellion contre tout. Et surtout contre ce qui enferme, contre ce qui contraint.
Oui.
Et ça, vous l'avez ressenti très tôt.
C'est ce geste de j'ai chaud, il y a un canal. Bon, c'est le Grand Canal de Versailles, mais peu importe, je me jette dedans. C'est emblématique d'un comportement, de son comportement. Et cette sorte de spontanéité. Ensuite, comme beaucoup de jeunes femmes qui ont été fiancées, qui fiancées vont se marier, mais qui ne savent plus très bien, parce qu'elle a rencontré mon père quand elle avait 15 ans, qui ne savent plus pourquoi elles vont se marier. Ensuite, elles ne savent plus quoi faire de cette vitalité, de cet enthousiasme et de cette manière de se jeter dans l'inconnu. C'est-à-dire que l'inconnu, il s'arrête. Et ça, quand on est enfant, on ne peut pas le comprendre.
Alors, votre enfance, elle se déroule à Arcachon. Une partie de votre enfance et grande partie de votre adolescence se déroule à Arcachon, parce que vos parents...
Au-delà, je suis restée jusqu'à 17 ans.
Jusqu'à 17 ans, Arcachon. Oui. Parce que vos parents viennent à Arcachon, et il y a chez votre mère des souvenirs d'été. Et ce qui est très beau également dans ce roman, c'est que vous, enfant, vous aimez Arcachon, quelle que soit la saison.
Complètement.
Et votre mère, elle, n'aime Arcachon que quand on peut s'y baigner.
Voilà. Il y a eu un malentendu. Elle est venue pour les vacances et au fond, elle voulait des vacances. Et elle voulait que les vacances durent. Malheureusement, un jour, parce que vous savez, Arcachon, ici tout le monde sait ça évidemment, il y a quatre villes et elle croyait en la ville d'été. Et j'ai construit tout le livre au fond d'une certaine façon sur est-ce qu'on peut vraiment vivre entièrement, uniquement la ville d'été ? Ou bien est-ce qu'un jour, la ville d'hiver vous menace ? Et tout tout l'épisode Arcachon, qui dure en effet des années, presque 20, plus de 20 ans, il est sous la menace de cette ville d'hiver qui n'est pas reconnue. Et il m'a semblé que ça faisait partie de l'histoire d'Arcachon, puisque Arcachon étant d'abord une ville conçue pour guérir la tuberculose, donc c'est une ville d'hiver, et cette identité va être supprimée, ou en tous les cas fortement effacée, au profit de la ville d'été, qui au contraire va célébrer les bien portants, la santé rayonnante et bronzée. Et donc, curieusement, je me suis dit qu'elle, sans le savoir, elle reproduisait un phénomène historique. Et il faut dire aussi que pour moi, écrire ce livre, ça n'apparaît pas dans le livre, mais la grande révélation que j'ai eue, c'est que c'est l'histoire. C'est-à-dire que grandir au bord de l'eau, au contraire des enfants qui grandissent à Paris, par exemple, ils grandissent avec l'histoire. Ils savent qu'il y a une histoire. C'est impossible de ne pas le savoir, même ici. Mais si on vit au bord de la mer, l'histoire, elle ne fait que s'effacer. Par exemple, pour la guerre, la dernière guerre, il n'y avait que les blocos qui nous disaient l'histoire. Sinon, les plages, tous les jours, et c'est le mouvement même des marais, effacent ce que les pas qui, la veille, s'étaient inscrites. Et ce livre, il est aussi une réflexion sur comment, d'une mère oublieuse, parce que ma mère ne s'intéressait pas au passé, grandissant sur un sol qui ne garde aucune trace, j'ai pu, à ce point, adorer les histoires surgies du passé.
Mais avant de revenir à votre passé, on va revenir à votre enfance, parce que il y a également dans ce livre qui est comment dire, qui a une douce et drôle nostalgie. C'est pas du tout un livre triste, c'est pas du tout un livre de regrets. C'est un livre qui a une ironique nostalgie, on va dire. C'est peut-être le terme qui lui convient le mieux, peut-être. Et vous racontez également votre enfance. Et votre enfance, c'est l'enfance des enfants de la plage.
Oui.
Alors, c'est quoi ces enfants de la plage?
Les enfants de la plage, c'est une catégorie très à part et très secrète, donc je ne vais pas dire énormément. Mais ils sont ceux qui regardent arriver les estivants, d'abord, comme on disait. Et ça, c'est toujours drôle de voir débarquer les estivants. Et ils les intègrent un moment à leur jeu, parce que les enfants de la plage ne sont pas sectaires. Et ensuite, de toute façon, ils savent qu'ils vont partir. Et moi, en tant qu'enfant de la plage et habitant là et connaissant la plage dans tous les temps, je me disais, c'est quand même invraisemblable que, alors qu'on leur montre une telle beauté, qu'ils ont la chance de vivre là, ils n'arrivent pas à faire basculer l'opinion de leurs parents et ils repartent quand on leur dit de repartir. Je trouvais ça mais insensé de docilité, quoi. Je veux dire, on leur montre la chose la plus belle du monde. Et puis bon, c'est le 31 juillet, bon, ben c'est fini. Et donc après, on reste ensemble, les enfants de la plage, et on joue, on est dans un lieu vide. Et là, donc j'étais hier sur la plage, en fait non, oui, hier, et la même plage où j'allais, et c'est vrai que ce passage de la foule au vide, moi, je l'ai toujours aimé. Ça m'a jamais... Alors que ma mère, ça l'a déprimé. Et ça, je me dis, c'est les adultes. Les adultes, ils ne savent pas faire surgir le merveilleux de presque rien. C'est un peu vrai.
Il faut dire que vous revenez à Arcachon.
Oui. Je vais à l'hôtel.
Mais pendant longtemps, vous n'êtes pas revenu à Arcachon.
Non, alors pendant longtemps... Pendant très, très, très longtemps, je ne suis pas revenue. Non, non, c'est très difficile. Ben justement, là, maintenant, y aller à l'hôtel, au contraire, j'adore ça. Et qu'on me parle comme si je connaissais pas Arcachon, on me donne des plans, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et même une fois, quelqu'un m'a promenée dans la ville d'hiver, quelqu'un de la ville, en me montrant les villas, tout ça. C'était merveilleux. Et je passais devant des maisons d'amis d'enfance. Et c'était franchement extraordinaire. Alors, j'aime beaucoup, j'aime revenir. Mais ça, il faut le faire que quand on a une certaine distance par rapport au deuil. Et voilà.
Mais est-ce que vous pensez, alors, dans ce cas, que vous auriez pu écrire ce souvenir de la marée basse sans avoir cette possibilité de revenir?
Non, vraiment pas. J'ai adoré revenir et non. Parce qu'à ce moment-là, justement, comme vous le dites, ça aurait été une nostalgie lourde. Ou alors, ça aurait été parler sur une page. Maintenant, j'entends page et plage en même temps. Fermée. Alors que ce n'est pas du tout ce que je ressens maintenant. Vraiment, au contraire. Vraiment. Et aussi, comme je comprends mieux combien la seconde partie... Enfin, c'est exactement deux parties, la vie de ma mère. Et la seconde partie a été solaire et elle s'est épanouie. Arcachon ne porte plus trace de sa blessure ou de ce qui a pu lui manquer. Donc oui, il m'a fallu tout ce temps. Sinon, enfin, de toute façon, ça arrive. Un livre, c'est comme beaucoup de choses essentielles dans la vie. C'est juste, c'est à ce moment-là.
On va revenir sur la seconde partie de la vie de votre mère, parce qu'elle coïncide également dans le livre, et c'est très, très logique d'ailleurs, à une partie également qui vous concerne, vous, puisqu'il ne s'agit plus là de l'enfance, mais de l'adolescence. Je voudrais rester un instant sur l'enfance, parce qu'il y a un très beau passage, un très beau chapitre et une histoire très très belle avec une petite fille qui s'appelle Lucille, je crois, et qui est votre amie, mais c'est votre amie d'été, elle s'en va.
Alors, sur plusieurs livres, j'ai raconté l'amitié, la force de l'amitié entre deux petites filles. C'est un thème, vous voyez, et c'est un thème à variation. Là, ça prend la forme d'une rencontre avec une petite estivante, mais ça peut prendre d'autres formes. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas assez écrit. La proximité avec une amie pour une enfant change complètement la vision autour de soi. Et comment c'est peut-être plus important, enfin pour moi, c'était plus important pendant longtemps que la relation à ma mère. C'est un thème que je trouve qui est peu exploré, mais qui est, il y a une jubilation, et c'est un monde en soi. Donc là, je la découvre à la plage, mais il y a d'autres formes possibles.
Oui, mais parce que vous inventez avec elle également des jeux et surtout un univers qui, par essence, est obligé d'échapper à l'univers des adultes. Et vous imaginez qu'il y a la princesse du palais de la mer.
Oui, mais ça, pour vous dire toute la vérité, par exemple, ce que je garde, c'est dans quel état psychique, affectif, jubilatoire j'étais dans ces relations d'amitié. La princesse du palais des mers, par exemple, en réalité, c'est maintenant que je l'ai inventée. D'ailleurs, cette amie d'enfance m'a téléphoné en disant « Je ne t'ai pas parlé de la princesse du palais des mers. »
Mais ce n'est pas grave si on y croit. Le principal, c'est que...
Voilà. Et en fait, la princesse du palais des mers, c'est comme Utamaro. C'est une référence au Japon. Mais c'est quelque chose que j'ai inventé, que je me suis raconté maintenant.
Oui, parce qu'il faut dire, alors si on va jusqu'à la référence au Japon, il faut dire que Souvenir de la marée basse est extrait d'un livre magnifique qui est un livre d'un peintre japonais qui s'appelle Souvenir de la marée basse.
Voilà. Donc, mais ce que la princesse du palais des mers, elle m'a paru. Maintenant, quand je vais à Arcachon, je pense à la princesse du palais des mers. Mais parce qu'elle est. D'abord, c'est un conte qui raconte comment le sable et la mer se sont réunis alors qu'ils étaient hostiles. Et aussi, c'est cette chose des enfants d'inventer ce qui se passe derrière des parois invisibles ou derrière des surfaces lisses. Et là, sous la mer, il y a la princesse du palais des mers. Mais les enfants aussi, tout ce qui est caché a sa vie.
Oui, enfin, il y a des choses également que les enfants savent découvrir, et savent réinventer et s'approprier. Et ça appartient à chaque enfance. C'est faire, par exemple, d'une barque renversée à une caverne merveilleuse.
Oui, ça, c'est vraiment quelque chose d'Arcachon, en fait, de tous les bords de mer. C'est merveilleux, oui. Et ça, on se sent totalement secret, invisible. Mais il y a une chose que je voulais mettre depuis le début du livre, que j'ai absolument pas réussi à écrire, c'est que le petit Jean-Paul Sartre, qui est à Arcachon pendant la guerre de 14, vers 1915, je ne crois pas qu'il y ait tout de suite, parce que ses parents avaient une maison à Arcachon, il a 7 ans, il commence un roman sur la guerre. Oui, il a 8 ans, mettons. Il commence un roman sur la guerre, il n'en est pas vraiment content. Et il l'a enseveli dans le sable, au niveau des abatilles. Ce qui fait que toujours, quand on va sans le savoir, quelque chose en poussière est un manuscrit du petit Jean-Paul Sartre.
Oui, mais qui ressemblerait davantage aux mots qu'à l'enfer, c'est les autres, manifestement.
C'est extraordinaire, quand même. Hein.
Alors, bon, donc, pour reprendre le fil de votre livre, Arcachon, donc cette période, qui pour vous a été une période bénie, qui pour votre mère a été une période très, très compliquée, difficile. Votre père meurt, et votre père meurt très jeune. Et votre père que vous adoriez, mais qui vous aviez un rapport qui changeait des rapports de votre mère, parce que c'était des rapports de confiance, que vous racontez.
Ça, c'est les rapports mère, fille, fille, père. C'est très différent.
Et à ce moment-là, votre mère s'en va, elle quitte Arcachon, elle choisit l'opposé exact, enfin l'opposé, pas simplement l'opposé géographique, mais l'opposé physique, d'une certaine façon. Elle ne veut plus du chemin de ses marées basses ni de ses marées hautes. Elle part en Méditerranée, elle part à côté de Nice, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
À Menton,
excusez-moi. Oui. Et là, c'est une autre partie de sa vie et c'est une autre partie de la vôtre. Et alors, comment vous la retrouvez à ce moment-là?
De toute façon, ce qui est aussi très, très différent, c'est, je pense, quand on a quitté la maison, quand on revient en visiteuse. Et ça, c'est complètement d'autres relations. Et donc ça m'a intéressée. Et en plus, c'était en visiteuse, doublement en visiteuse, puisque c'était en visiteuse dans un appartement qui n'était plus un appartement d'enfance, ni de jeunesse. Donc j'avais plus l'impression d'aller rendre visite à quelqu'un que, à la fois que je connaissais très bien et que je comprenais très mal. Et aussi, ce qui est, je trouve, passionnant dans les relations avec une mère, c'est à quel point c'est une histoire physique aussi. C'est-à-dire, elle rajeunit, la couleur de ses cheveux change, et elle a très envie de rencontre. Et là, je suis très divisée, parce qu'une partie de moi qui ne l'exprime pas, ça c'est mon côté japonais, je suis absolument du côté du deuil de mon père, mais j'en dis strictement rien. Et elle se projette vers des rencontres, et ça m'est sympathique aussi. Et donc, je l'aide dans ces histoires, et elle répond à des petites annonces, et je l'aide à écrire les textes pour les petites annonces, et on s'amuse beaucoup. Je fais un premier portrait d'elle, comme séduisante, originale, bohème. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé de l'écrire. Ça m'apparaît. J'ai commencé de l'écrire par les petites annonces que j'écrivais pour elle.
Ce qui l'enchantait, naturellement.
Ah ben, elle adorait ça. Elle adorait ça et elle pouvait être très, très joueuse et très, très drôle aussi, absolument.
Oui. Alors vous avez une phrase qui est admirable, c'est pour caractériser votre mère, c'est vous dites à un moment donné, ma mère ne se posait sur rien sauf sur la mer.
Oui, c'est dire qu'elle était quand même un peu instable.
Alors vous la retrouvez donc dans la Méditerranée et vous la voyez toujours dans cette façon de nager extrêmement impressionnante qu'elle avait, parce qu'elle avait une... Vous racontez très bien comment elle rentrait dans la mer.
Oui, ça c'est... Je pense qu'on a... Chacun a une sorte d'image qui est emblématique de la personne qu'on aime ou qu'on a aimée. Et elle, c'était entrée dans la mer, en effet. Mais je pense, par exemple, à un livre qui m'a beaucoup accompagnée quand j'écrivais le livre qui est La maison de Claudine. Et Colette, manifestement, quand elle pense à sa mère, elle la voit dans le jardin. Elle voit sa main au passage cueillant une fleur ou redressant un rosier et c'est ça qu'elle nous fait voir. Quand je pense Sido, je vois cette femme avec son sécateur se promener dans le jardin et faire ce geste. Et je me suis dit, et ma mère, je la vois entrer.
C'est-à-dire qu'elle rentre dans la mer, oui. Il y a des gens qui rentrent frileusement.
Non, elle entre tranquillement, ce qui était en contraste avec le reste de son mode d'approche, qui n'était pas tranquille, justement, qui n'était jamais tranquille.
Et ensuite, là, donc, quand vous vous retrouvez sur la Méditerranée, et que vous, en même temps que vous la retrouvez, et que vous vous retrouvez d'une certaine façon avec elle, là, il se passe quelque chose qui est très étonnant d'un point de vue simplement géographique et océanographique. Vous avez changé de continent, mais vous êtes toujours sur les bords de l'Atlantique.
Oui, en réalité, oui. Oui, j'ai changé de continent. J'ai mis plus de temps que...
Et vous le racontez dans le livre.
Mais j'ai changé de continent, oui. Et je suis passée aux États-Unis. Et entre-temps, je ne suis jamais revenue à Arcachon. Et c'est aussi aux États-Unis, je suis étonnée quand je vais à la plage, très naïvement d'ailleurs, de retrouver les mêmes herbes, les mêmes parfums, presque la même couleur du sable, parce que ça, je crois que ce n'est pas possible. Mais la première fois où je vais à Far Island ou n'importe quelle plage près de New York, je suis stupéfaite parce que je croyais que c'était unique. C'est curieux, mais c'est très naïf, mais je suis très étonnée.
Mais non, c'est qu'on ne peut pas soupçonner que l'Atlantique de l'Amérique est le même que l'Atlantique d'Arcachon.
Oui.
Alors que d'Arcachon, finalement, le seul point d'eau douce à l'horizon, c'est finalement New York, d'une certaine manière.
Le point d'eau douce ?
Le prochain point d'eau douce, quand on est à Arcachon, finalement, c'est New York. C'est...
On peut aller au lac de Cazaux.
On peut aller au lac de Cazaux, c'est vrai.
Enfin, on peut aller aussi à New York, hein, mais en général...
Je voudrais revenir à la Méditerranée, à votre mer sur la côte méditerranéenne, sur la mer Méditerranée. Vous la retrouvez un jour dans un jour de tempête. Et racontez un peu comment le...
Oui, c'est un livre qui est construit sur deux rivages. Et c'est aussi... Il y a un moment clé qui condense en un instant un processus de rapprochement. Voilà. Il condense comme certaines images de rêve. Cette image, elle est comme une image de rêve où ce qui a pris des années pour se passer va tout d'un coup nous apparaître d'une manière aveuglante, c'est le cas de le dire. Tellement lucide que ça vous aveugle. Et en effet, cette scène, c'est... J'arrive à Nice, je prends le bus qui longe la promenade des Anglais, et c'est raconté ainsi, il pleut énormément, il y a du vent, et je la vois seule, pas lutter contre les éléments, mais au contraire, presque d'accord avec la pluie, la difficulté à avancer... Et je vois à la fois le temps, qu'elle a changé, évidemment, qu'elle est une femme âgée, mais qu'elle est extraordinairement juvénile, et surtout qu'elle n'est pas du tout entrée dans la catégorie des vieilles dames qui aiment prendre le thé au chaud, frileuse, mais qu'elle est, elle est la même jeune fille qui se jette dans le Grand Canal parce qu'elle a chaud. Et je me suis dit, voilà, c'est elle. Et à ce moment-là, c'est vrai, je commence de l'aimer entièrement. Et toute la suite, que je ne raconte pas, bien sûr, est infiniment plus facile et presque légère. Et c'est une parenthèse, mais donc elle a commencé à oublier. Toute sa vie, elle aimait ne pas se souvenir. Mais quand après, elle commence à oublier sans choisir, à ce moment-là, on dialogue très bien. C'est très curieux, hein? Parce que c'est un petit peu... Moi, j'ai travaillé sur la conversation, j'ai fait des cours sur la conversation, j'adore la conversation, et je suis née dans un milieu où la conversation, franchement, je la trouvais pathétique. Je me disais, mais c'est pas possible, ces personnes parlent que du prochain repas, on se dit jamais d'idées. Il n'y a jamais d'idées. Et c'est avec en devenant étudiante ou avec mes amis qu'on a parlé d'idées. Mais à la maison, et ça, je crois que je ne suis pas un cas unique, hein. À la maison, en fait, dans le quotidien, on se parle peu, d'une façon. Et dans La Peste, Camus dit ça aussi. La peste arrive, tout le monde est enfermé, et les gens se disent, mon Dieu, mais les derniers mots, qu'est-ce que c'était ? Et ce caractère discontinu de sa conversation, à la fin, à cause de la maladie qu'il a gagnée, mais qui était assez sous une forme assez légère, ce caractère discontinu, j'y ai adhéré aussi, comme à elle, seule dans la tempête, et on a très très bien parlé. Alors qu'avant, j'avais du mal à l'accepter, quoi. Je me disais, tout le temps sauter d'une idée à l'autre, c'est quand même très fatigant. Mais après, non.
Vous dites également qu'elle n'était sensible qu'aux délices de l'eau.
Je pense qu'elle était sensible à d'autres délices, mais c'est franchement un portrait de ma mère en nageuse.
Parce que ce qui revient très spontanément quand on lit votre livre et quand on en parle ensuite, c'est des impressions de fluidité, bon, qui tient naturellement à la façon dont vous travaillez votre écriture, qui a l'air très, très simple comme ça, mais qui en fait est une écriture que vous devez beaucoup, beaucoup, beaucoup revenir. Enfin, j'imagine.
Oui.
Je ne sais pas comment vous travaillez, mais ça doit être ainsi.
Oui.
Et cette fluidité, le concours également a donné à rappeler je veux dire, ces souvenirs un peu liquides de la...
Oui, j'ai vraiment eu envie de trouver des mots qui soient des vecteurs de sensations. Et encore une fois, je lis et relis Colette. Vraiment, c'est de plus en plus mon idéal. Et je me dis, quand je la lis, qu'elle trouve juste le mot qui fait que la sensation affleure en même temps. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Et il y a ça aussi chez Proust. Mais chez Proust, c'est pris dans une théorie. Et au fond, pour moi, ça me gâche un petit peu la fraîcheur, encore une fois, de l'émotion et de la sensation. Et chez Colette, par exemple, si elle parle de l'amour, elle n'a pas une théorie sur la jalousie, comme dans Proust. C'est comme si on était dans son jardin avec elle à l'aube, allant vers une rivière, etc. Et quand j'ai écrit ce livre, presque autant que une figure maternelle et que qu'est-ce qu'elle m'avait transmis, il y a la question de comment maintenir une sorte de présent physique, corporel et même érotique de soi-même à travers les années. Comment ce qui nous a constitués, le paysage qui nous a constitués, à un moment je dis plus que les parents ou que les éducateurs, c'est les éléments qui nous constituent. Et ça, je le crois vraiment. Je crois qu'il y a une sorte de distance. Moi, j'ai un rapport un peu distant, ou en tout cas, je suis à la psychologie, mais par contre, très, très proche, très présent au monde qui m'entoure, et aux rencontres, et à l'immédiateté.
Et c'est très curieux que vous parliez de Colette, parce qu'effectivement, cet univers de Colette, on le retrouve dans la dernière partie de votre livre. Et notamment, quand vous faites des descriptions, ou que vous évoquez l'image que vous avez de votre mère, qui devient âgée, dont on devine, parce que c'est un livre qui dit avec infiniment de pudeur elle-même et vous-même d'ailleurs, mais enfin, ce sont des portraits véritablement où on vous perçoit derrière ces esquisses japonaises ou japonisantes, c'est selon, qui va très bien avec Carcachon.
Mais, oui.
Mais surtout, le portrait que vous faites de votre mère, quand elle a par exemple ce chapeau de paille, ce grand chapeau de paille, et c'est les dernières images que vous conservez d'elle qui sont des images, comment vous les qualifieriez apaisé.
Oui, j'ai quand même beaucoup d'images de bord de l'eau. Oui.
Vous terminez en disant, en parlant un peu de vous dans ce livre, et vous avez une phrase que je trouve assez incroyable, parce qu'elle dit ce que vous êtes. En même temps, le rapport que vous avez à votre mère, c'est le plus bel endroit du monde, c'est là où j'habite.
C'est un rêve. J'ai fait un rêve. Le livre est en deux parties et chaque partie est ouverte par un rêve. Et c'était un rêve où j'étais sur la place à l'entrée de la jetée Thiers et une voix, moi, je disais, le plus bel endroit du monde, c'est où j'habite. En fait, c'est un peu, je suis partie de ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Quand je me suis réveillée le matin, et puis on voyait la mer d'un vert extraordinaire, d'un vert un peu nuancé, profond, un verre d'huître, certaines huîtres. Et j'ai fait ce rêve et je me suis dit, mais c'est fou quand même. Si j'ai cette conviction, je dois réussir à l'écrire, à la faire passer.
Et aujourd'hui, c'est ce que vous ressentez ?
Le plus bel endroit du monde, ou en général, oui, c'est où je suis. Bah, oui, je veux dire.
Donc on peut en conclure que c'est le plus bel endroit du monde ici.
Oui, ben, bien sûr, ça peut l'être, bien sûr, absolument.
Ce livre est un vrai succès littéraire de rentrée. Vous avez des bon. Est-ce que vous y attendiez ?
Oh non, je dois dire même, je pensais parce que les romans historiques, il y a quelque chose de rassurant, je pense, pour le lecteur. On vous raconte une histoire, mais elle est fondée sur des faits précis, et en plus, quand il y a une personnalité comme Marie-Antoinette, ça fait rêver. Donc les romans historiques, je comprends que ça circule très bien. Mais ce livre, je pensais, parce que j'ai écrit un premier livre, mon premier livre, c'est La vie réelle des petites filles, et il a aucun succès depuis toujours, et il est vraiment sur les jeux de plage, les petites filles sur les jeux de plage, beaucoup de quelque chose qui est là. Mais comme quoi, il faut beaucoup de temps pour trouver la forme, pour dire pas des choses très différentes, mais tout d'un coup, ça, ou progressivement plutôt, ça porte. Donc, je ne m'attendais pas du tout. Je pensais qu'il y aurait un écho un peu intimiste.
Et pourtant, vous parlez souvent, en plus, de la récurrence de la nage.
Oui.
Tous vos livres, enfin, pas tous, mais tous les livres qui concernent, justement, votre histoire à vous, quelle que soit la façon dont vous puissiez l'évoquer, racontent ça.
Parce que, oui.
Parce que cet univers océan aquatique a compté énormément pour vous, j'imagine.
Ah, mais oui, absolument. Mais il est vrai que quand j'écris sur Marie-Antoinette, j'arrive pas à le faire passer. Mais j'y ai pensé, j'ai réussi à dire qu'elle n'avait jamais vu la mer. Donc négativement, j'ai réussi à le... Ah non, mais c'est affreux, non ? Elle était reine, elle n'avait jamais vu la mer, c'est tout ça. Et beaucoup. Pas Napoléon.
Bon, Souvenir de la marée basse, c'est donc le livre de Chantal Thomas. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à vous précipiter, l'acheter. C'est, comme je le disais, c'est un livre qui va vous parler, enfin qui obligatoirement vous ramène à vos plages personnelles, à vous. Et je voudrais remercier Chantal Thomas pour le moment que nous avons passé déjà avec elle. Je pense que nous pouvons l'applaudir. Et je vous conseille vivement...